Chapitre 2. Soulevé par la vague. 1. Alors qu'ils quittaient la demeure de l'écrivain qu'ils étaient venus voir à Bridgeton, par ce petit chemin de terre, Eddie et Roland tombèrent sur un camion orange portant l'inscription « Maintenance électrique du Maine » sur les flancs. Debout à côté, un homme en gilet orange fluorescent et casque jaune taillait des branchages bas qui menaçaient la sécurité des lignes à haute tension. Et Eddie ressentit-il alors quelque chose de spécial, comme une force qui se rassemblait? Peut-être anticipait-il la vague qui dévalait le rayon se précipitant vers eux. C'est ce qu'il s'était dit ensuite, mais il ne pouvait l'affirmer avec certitude. Dieu savait que déjà alors il se trouvait d'humeur étrange, et ça s'expliquait. Combien de gens vont à la rencontre de leur Créateur? Eh bien, Stephen King n'avait pas à proprement parler créé Eddie Dean, ce jeune homme dont le Co-op City se trouvait à Brooklyn et non pas dans le Bronx. Pas encore. Pas en 1977. Mais Eddie était certain que King finirait par le faire. Comment expliquer autrement sa présence à lui dans ces lieux? Le jeune homme se faufila devant le camion, descendit de voiture et demanda à l'homme en sueur avec son sécateur à la main comment se rendre au chemin du dos de la tortue dans la ville de Lovell. Le type de la maintenance électrique du Maine lui donna volontiers les indications qu'il demandait, puis ajouta « Si vous tenez vraiment à aller à Lovell aujourd'hui, il va falloir que vous empruntiez la route 93, la route du marécage, comme les gens d'ici l'appellent. » Il leva la main en direction d'Eddie en secouant la tête comme un homme qui voit arriver la dispute, alors qu'Eddie n'avait pas ajouté un mot. « Eh, fait 10 kilomètres de plus, je sais. Et puis c'est un vrai traquenard, mon salaud. Mais on peut pas traverser East Stoneham aujourd'hui. Les flics ont tout bouclé. Les fédéraux, les péquenauds du coin et même les types du bureau du shérif du comté d'Oxford. « Vous voulez rire ?» fit Eddie, ce qui lui parut une réponse sans risque. Le type de la compagnie d'électricité secoua la tête d'un air sombre. « Personne n'a l'air de savoir ce qui se passe exactement, mais il y a eu une fusillade, peut-être même des armes automatiques et des explosions. » Il tapota le vieux talkie-walkie déglingué qu'il portait à la ceinture. « J'ai même entendu 2-3 rumeurs cet après-midi. Ça m'a pas surpris plus que ça. » Eddie n'avait aucune idée de quelle rumeur il s'agissait. Mais ce qu'il savait, c'est que Roland voulait reprendre la route. Il sentait l'impatience du pistolero dans sa propre tête. Il voyait presque le moulinet impatient de la main, celui qui voulait dire « On y va, on y va. » Je veux parler de terrorisme, précisa le type en gilet orange avant de baisser la voix. Les gens croient pas que des saloperies pareilles, ça peut arriver en Amérique. Mon pote, mais je vais vous dire, c'est pourtant le cas. Si c'est pas aujourd'hui, c'est pour bientôt. Ils vont finir par nous faire sauter la Statue de la Liberté ou l'Empire State Building, moi je vous le dis. Les mecs de droite, les mecs de gauche, ou alors ces foutus arabes, y a trop de dingues. Eddie, qui avait 10 ans d'avance et une petite idée de ce qui allait advenir dans son pays, opina du chef.
Vous avez sûrement raison. En tout cas, merci pour les infos.
C'est juste pour vous faire gagner du temps. Et alors qu'Eddie ouvrait la portière de la Ford de John Cullum, le type ajouta. Vous vous êtes battu, monsieur? Vous m'avez l'air bien amoché, et puis vous boitez.
Eddie s'était bien battu, aucun doute là-dessus. On lui avait raflé le bras et fourragé dans le mollet droit. Aucune des deux blessures n'était vraiment grave, et dans la précipitation qui avait suivi, il les avait presque oubliées. Maintenant, la douleur était de retour. Au nom du ciel, qu'est-ce qui lui avait pris de refuser les cachets de percossé d'Aaron Dipno?
Ouais, dit-il. C'est pour ça que je vais à Lovell. Le chien de ce type m'a mordu et on va en discuter entre hommes.
Farfelu comme histoire. Il faut dire qu'il n'avait pas de talent particulier pour les intrigues. Ce n'était pas lui l'écrivain. C'était le boulot de King. Quoi qu'il en soit, cela fit l'affaire et il se retrouva au volant de la Ford Galaxy de John Cullum avant que le type de l'électricité ait eu l'occasion de lui poser plus de questions. Eddie n'en demandait pas plus. Il s'empressa de quitter les lieux.
« Tu as obtenu les informations ?»
s'enquit Roland.
« Ouais. »
« Bien. Tout est en train de lâcher à la fois, Eddie. Il faut qu'on retrouve Susanna le plus vite possible. » Jake et le père Callahan aussi. Et ce bébé, quel qu'il soit, il arrive. Peut-être même qu'il est déjà là.
En sortant de la route du Kansas, tournez à gauche, avait dit l'électricien à Eddie.
Le Kansas? Comme pour Dorothy, Toto et Tante M, et tout qui lâche en même temps. Et c'est ce qu'il fit.
Ce qui les embarqua en direction du nord. Le soleil s'était caché derrière les arbres, plongeant le bitume de la route à deux voies dans l'ombre. Eddie avait une conscience presque physique du temps qui leur échappait, qui lui glissait entre les doigts comme un tissu incroyablement cher et précieux, trop lisse pour qu'on le retienne. Il appuya sur l'accélérateur et la vieille Ford de John Cullum, en dépit de ses soupapes asthmatiques, redoubla néanmoins d'entrain. Eddie monta jusqu'à 80 à l'heure et en fit sa vitesse de croisière. Il aurait pu accélérer, mais la route du Kansas était à la fois très sinueuse et mal entretenue. Roland avait sorti de sa poche de chemise un morceau de papier qu'il avait déplié et qu'il inspectait à présent avec attention. Même si Eddie doutait que le pistolero pût réellement déchiffrer le document, les mots écrits en lettres de ce monde demeureraient sans doute toujours un mystère pour lui. En haut de la petite page, au-dessus de l'écriture tremblotante, mais parfaitement lisible d'Aaron Dipno, et de cet élément essentiel, la signature de Calvin Tower, apparaissait un petit castor dessiné, tout sourire, surmonté de la légende « Affaire avant d'être débordé. » Bien stupide comme jeu de mots.
« Ne me pose pas de questions bêtes, je ne jouerai pas à tes jeux bêtes, » pensa Eddie.
Et le sourire lui vint subitement aux lèvres. Roland s'accrochait toujours à ce point de vue. Eddie l'aurait juré. En dépit du fait qu'à bord de Blaine le Mono, c'était effectivement quelques questions bêtes bien amenées qui leur avaient sauvé la vie. Eddie était sur le point de faire remarquer que ce qui se révélerait sans doute le document le plus important de toute l'histoire de l'humanité, plus encore que la Magna Carta, ou que la Déclaration des droits de l'homme, ou encore que la théorie de la relativité d'Albert Einstein, portait un castor et un jeu de mots débiles en entête, et il allait demander à Roland s'il connaissait celle de Toto qui... Mais avant qu'il pût prononcer le moindre mot, la vague les frappa de plein fouet.
2. Son pied dérapa sur la pédale d'accélérateur, et ce fut heureux. Si Eddie avait continué à appuyer, lui et Roland auraient sans doute été blessés, voire tués. Lorsque la vague les engloutit, garder le contrôle de la Ford Galaxy de John Cullum cessa subitement d'être une priorité pour le jeune homme. Comme au moment où le wagonnet des montagnes russes arrive en haut de la grande montée, qu'il hésite un instant, qu'il s'incline légèrement, et que subitement, il plonge. Et qu'on tombe, le visage fouetté d'un souffle furieux d'air chaud et estival, avec la cage thoracique qui menace d'exploser et l'estomac qui flotte quelque part derrière. À cet instant, Eddie vit que tout ce que contenait la voiture de John Cullum s'était mis à flotter dans l'air. Les cendres de sa pipe, deux stylos et un petit bloc anciennement posé sur le tableau de bord. Le dîne d'Eddie, et, constata-t-il, le camail de son dîne. Ce bon vieil Eddie Dean. Pas étonnant qu'il ait les tripes à la fête. Il n'avait pas senti que la voiture même, qui avait glissé avant de s'immobiliser sur le bas-côté de la route, flottait elle aussi, se balançant paresseusement d'avant en arrière, à une vingtaine de centimètres au-dessus du sol, comme un petit bateau sur une mer invisible.
Puis la route de campagne à trois voies disparut. Bridgeton disparut. Le monde disparut. Il entendit le carillon du Vahadash, repoussant et qui donnait la nausée, et eut l'envie de grincer des dents en signe de résistance. Sauf que ses dents avaient disparu, elles aussi. 3. Tout comme Eddie, Roland ressentit très clairement qu'il se faisait soulever, puis suspendre comme une chose qui aurait perdu ses attaches avec la pesanteur de la terre. Il entendit lui aussi le carillon du Vahadash, mais comprit que ce n'était pas là le véritable Vahadash, du moins pas le genre de Vahadash qu'ils avaient connu jusqu'ici. Il s'agissait vraisemblablement de ce que Vanet aurait appelé « Avenkal », expression qui signifiait « soulevé par le vent » ou bien « porté par la vague ». Mais le terme « cal », à la différence du « ka » plus couramment employé, désignait une force naturelle, d'une puissance désastreuse. Non pas un vent, mais un véritable ouragan. Non pas une vague, mais un tsunami. C'est le rayon même qui veut s'adresser à toi, Gabi Lapi, lui dit Vanet en pensée. Gabi Lapi, ce vieux surnom que Vanet avait attribué par ironie au fils de Stephen Deschaine, réputé pour son mutisme. Son brillant professeur à la patte folle avait cessé de l'employer quand Roland avait atteint l'âge de 11 ans. Et sans doute sur la requête insistante de Cort. Et tu ferais bien de l'écouter dans ce cas.
Je l'écouterai attentivement, répondit Roland,
et il se sentit lâché. Il eut un haut-le-cœur, la sensation de ne plus rien peser, puis la nausée. Le carillon à nouveau. Puis tout à coup il se retrouva en train de flotter, mais cette fois-ci au-dessus d'une chambre remplie de livides. Il lui suffit d'un regard pour s'assurer que c'était là que les loups emmenaient les enfants qu'ils kidnappaient dans les terres frontalières des Kala. Et tout au bout de la pièce, une main lui saisit le bras, chose que Roland aurait cru impossible dans cet état. Il tourna la tête vers sa gauche et vit Eddie qui flottait à ses côtés, nu comme un ver. Ils étaient nus tous les deux, leurs vêtements étant restés dans le monde de l'écrivain. Roland avait déjà remarqué ce qu'Eddie lui montrait du doigt. Au bout de la pièce, on avait réuni deux lits. Une femme blanche était allongée sur l'un d'eux. Ses jambes, celle-là même dont Susanna s'était servie pour leur visite Vahadash à New York, Roland en était persuadé, étaient écartées. Une femme à tête de rat, une taïne de toute évidence, était penchée au milieu. À côté de la femme blanche apparaissait une noire dont les jambes s'arrêtaient à hauteur des genoux. Il avait beau être en train de flotter en apesanteur, tout nauséeux et nu comme un bébé. Jamais de toute sa vie Roland n'avait été aussi heureux de voir quelqu'un. Il en allait évidemment de même pour Eddie. Roland l'entendit pousser un cri de joie au beau milieu de son cerveau et il tendit la main pour faire taire le jeune homme. Il fallait le faire taire, car Susanna les regardait tous deux, les avait sans doute vus et, si elle leur parlait, il devait se concentrer sur chacune de ses paroles. Car même si ses paroles provenaient bien de sa bouche, c'était probablement le rayon qui s'exprimerait par elle. La voix de la tortue ou celle de l'ours. Les deux femmes portaient des casques métalliques reliés entre eux par un câble en acier segmenté.
Une sorte de mélange des esprits comme font les Vulcains, fit Eddie,
envahissant une nouvelle fois l'intérieur de son crâne et couvrant tout le reste.
Ou peut-être que...
Silence, l'interrompit Roland.
Silence, Eddie, au nom de ton père.
Un homme en blouse blanche s'empara d'une paire de forceps à l'air cruel posée sur un plateau et repoussa l'infirmière taïne à tête de rat. Il se pencha vers l'avant,
scruta l'entrejambe de Mia en brandissant les forceps au-dessus de sa tête. Tout près, vêtu d'un t-shirt portant des inscriptions du monde d'Eddie et de Susanna, se tenait un autre Taïn avec une tête d'oiseau marron et féroce.
« Il va nous sentir, » pensa Roland. « Si on reste trop longtemps dans les parages, il va certainement nous sentir et donner l'alerte. »
Mais Susanna le regardait, et sous le rebord du casque, ses yeux étaient pleins de fièvre, de cette fièvre de la compréhension. Ses yeux les voyaient, si fait, pour sûr. Elle ne prononça qu'un seul mot, et en un éclair d'intuition inexplicable, mais parfaitement fiable, Roland comprit que ce mot ne provenait pas de Susanna, mais de Mia. Néanmoins, c'était aussi la voix du rayon, une force sans doute assez réceptive pour comprendre qu'elle était gravement en danger et devait impérativement se protéger.
Vol. Voilà le mot que prononça Susanna. Il l'entendit dans son esprit car ils étaient qu'à tête et en tête. Il le vit aussi se dessiner en silence sur les lèvres de la jeune femme, levée vers ce point où elle les voyait flotter tous les deux, témoins secrets d'une scène qui se produisait dans un autre où et un autre quand, en cet instant précis. Le Taïn à tête de faucon leva les yeux, essayant sans doute de suivre son regard, ou bien entendant lui aussi le carillon du Vahadash, dans ses oreilles à l'acuité surnaturelle. Alors le médecin abaissa les forceps et les enfourna sous la tunique de Mia. Elle poussa un hurlement, auquel se joignit celui de Susanna. Et comme si l'être sans substance de Roland pouvait se retrouver propulsé par la force de ses hurlements réunis, comme une cosse de laiteron ballottée par une rafale d'octobre, le pistolero se sentit soulever violemment et perdre le contact avec la situation, mais il se raccrocha à ce mot unique. Il fit renaître un souvenir éclatant de sa mère, penchée au-dessus de lui alors qu'il était couché. Dans la chambre de toutes les couleurs, c'est là que se situait la scène. Et bien sûr, il comprenait à présent ces couleurs qu'à l'époque il n'avait fait qu'accepter comme un jeune garçon. Accepter, comme seuls savent tout accepter les enfants à peine sortis de leur lange, avec un émerveillement inconditionnel, avec cette certitude indicible que tout vient de la magie. Sur les fenêtres de la nurserie, des vitraux reproduisaient l'arc-en-ciel du magicien avec ses cristaux, bien entendu. Il se rappelait sa mère penchée vers lui, le visage joliment coloré de cette lumière changeante, son capuchon retombé sur les épaules, de sorte qu'il pouvait suivre la courbe de son cou, de son œil d'enfant. Tout vient de la magie et de son âme d'amant. Il se rappelait s'être imaginé comment il la courtiserait et comment il la volerait à son père. Puis qu'ils se marieraient et qu'ils auraient des enfants à eux et qu'ils vivraient pour toujours dans ce royaume de contes de fées appelé Belle Scintille. Et elle chantait pour lui. Gabrielle Deschaine chantait pour son petit garçon aux grands yeux graves levés vers elle, la tête posée sur l'oreiller, le visage déjà marqué des multiples couleurs mouvantes de sa vie d'errance. Sa mère qui chantait une petite chanson idiote et cadencée, qui faisait « Petit oiseau, bébé adoré, amène donc ici ton panier. Va, cours, vole et rapporte de quoi remplir ton panier. » « De quoi remplir mon panier ?» se dit-il alors qu'il était projeté en apesanteur dans les ténèbres, et le refrain terrible du carillon du Vahadash. Les paroles elles-mêmes avaient un certain sens, celui des vieux nombres, c'est ce qu'elle lui avait répondu quand il avait posé la question. Car l'ancienne comptine disait non pas « va, cours, vol », mais « vac, cours, vol », 17, 18,
19. Vol, c'est 19, se dit-il. Bien entendu, tout est 19. Puis Eddie et lui se retrouvèrent de nouveau dans la lumière, une lumière orangée chargée de fièvre, dans laquelle apparurent Jake et Callahan. Il vit même ôté, posté au pied de Jake, la fourrure ébouriffée sur le dos et les babines retroussées, découvrant les crocs.
Vac, cours, vol, se répéta Roland en regardant son fils. Ce garçon si petit, tellement seul en face de tous ses ennemis dans la grande salle du cochon du Sud. Vol, c'est 19. De quoi remplir mon panier? Mais quel panier? Qu'est-ce que ça signifie ?